On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Les noix, on les ramasse à l'automne.
Et là, regardez, on a les massifs du Vercors et on voit les nuages hein, sont bloqués. C'est humide aujourd'hui, c'est relativement humide.
Un vrai temps de noix, comme on dit
un
par
vrai temps
ici.
De noix.
Voilà. Là, ça, c'est exactement ça. C'est l'humidité qu'on a depuis quelques jours, les pluies de la nuit qui vont permettre le début de la récolte ces jours-ci, même tout à l'heure. Quand je vois là les noix qu'on a au sol, on va lancer le ramassage pour enlever ces noix qui sont tombées naturellement.
Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix quand elle est ouverte?
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ça y est, c'est l'automne et la noix sort du bois. La récolte de la fameuse noix de Grenoble AOP, appellation d'origine protégée, a démarré cette semaine et nous y étions. Notre reporter Stéphane Combe a rendu visite à des nuciculteurs en agriculture biologique et on va voir qu'avec le changement climatique, ce n'est pas tous les jours facile de pratiquer ce métier. Pour cuisiner la noix en sucré, en salé, en liquide et en solide, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Linda Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous nous venez du Berry, c'est là-bas que vous vivez, à Bourges. Vous êtes auteur et photographe culinaire, spécialisé dans la cuisine bio et sauvage depuis une douzaine d'années.
Oui, c'est à peu près ça, oui.
Voilà, et vous allez nous montrer que le Berry est aussi le pays de la noix. Ce n'est pas l'apanage ou le monopole de la région de Grenoble de cultiver de la noix, on va le voir. Et puis, comme on aime bien votre travail, on signale aussi que vous publiez Les Saisons du Champignon, petit guide naturaliste et gourmand chez Alternative, formidable. Vous en faites les photos. Et il y a d'ailleurs quelques recettes, on va le voir, qui marient le champignon et la noix. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Esterel Payani et Antoine Gerbel, bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez bien par ce dimanche pluvieux, en tout cas sur Paris?
Un temps pluvieux, c'est un temps à aller ramasser des noix dans le Périgord.
Exactement, on va dans le Périgord avec Esterel Payani et Antoine.
Un temps pluvieux, c'est encore une dernière gorgée, encore une dernière pensée pour l'été.
Très bien, si vous avez des expériences intimes à nous raconter avec ce fruit à coque, avec la noix, interagissez en nous envoyant un mail, on va déguster à radiofrance.com ou depuis l'appli mobile de France Inter, on peut appuyer sur le bouton réagir. Laurent Thomas réalise cette émission en direct avec Charles Pellabon à la technique et Nadia Chougui à la préparation. Les recettes de Linda Louis, la vidéo même de la récolte tournée par notre reporter Stéphane Combe dans la région de Grenoble et toutes les infos pratiques, c'est sur France Inter. France Inter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de ramasser, de casser, de déguster les noix, un coup de cœur pour un livre paru il y a quelques jours à destination des amateurs de vin mais aussi des néophytes qui développent une curiosité autour du vin. Ça s'appelle, je le tiens à la main gauche, Le petit livre du sommelier, 350 pages, et c'est signé par un jeune sommelier de formation, devenu journaliste et expert du vin. Il est très présent dans les médias. Pour ceux qui veulent d'ailleurs le repérer sur les réseaux sociaux, c'est un zazou trentenaire qui porte la mèche et la moustache avec un certain style. D'habitude, il ne se sépare jamais de ses bretelles, sauf le dimanche visiblement, puisqu'il n'en a pas aujourd'hui, juste un t-shirt bleu marine, et il nous fait le plaisir d'un petit détour par nos studios, c'est Guilherme de Serval. Bonjour Guilherme.
Bonjour François-Régis, merci de me recevoir.
Mais merci beaucoup à vous d'être avec nous. Pour définir le petit livre du sommelier, on peut peut-être commencer par dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un guide de dégustation comme il en existe beaucoup, ouais. Ce n'est pas non plus une encyclopédie des vignobles. Disons que c'est un livre de conseils qui joint la théorie et la pratique et qui renouvelle peut-être notre regard sur le vin.
Je l'espère. En tous les cas, l'idée c'était que ça soit ludique, accessible et que si ça peut donner un peu de confiance en soi à la personne qui le lit, pour parler du vin justement, bah, le pari sera réussi.
On apprend beaucoup de choses dans ces 350 pages illustrées, il faut le préciser, par un ami à vous qui est tatoueur.
Qui est tatoueur à l'origine, qui s'appelle Jean-André, que je salue aujourd'hui.
Et qui fait vraiment un travail tout à fait délicat et expressif. On apprécie beaucoup ces illustrations qu'on trouve au fil du feuilletage. Alors, dessin en noir et blanc, évidemment. On y trouve, raconté sur un ton à la fois ludique et encyclopédique, les régions du vin, les cépages, les appellations, mais aussi vraiment tous les aspects autour du vin abordés sous des angles insolites ou malicieux. Vous en avez pensé quoi, Antoine Gerbel, vous qui voyez passer toute la littérature œnologique?
Oui, que je chronique régulièrement sur Tellement Soif.
Absolument, et votre web TV.
Et j'ai déjà dit grand bien du livre de Guilherme.
Merci,
parce que pourquoi? Bah, simplement, c'est autre chose et c'est un peu, il faut le dire, générationnel. On a à peu près 25 ans d'écart tous les deux.
Oui,
et ça se voit pas, hein, physiquement. Mais, mais par contre, ça se sent et ça j'adore. Tu as trouvé un moyen de parler à ta génération du vin. En gros, quand on ouvre le bouquin, il y a une grosse phrase et j'ai peur de dire une connerie. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a peur de parler du vin parce qu'on a peur de dire une connerie. Et tu annonces très bien, promis, je n'emploierai aucun terme technique, je bannirai tout jargon, toute prise de tête, tout snobisme. Et bien là, Paris réussit, parce que c'est fluide, c'est simple, c'est gai, c'est ludique, et c'est sérieux. Tu as bossé, tu as vraiment bossé, j'ai quelques guides à mon compteur, comme on
oui,
dit, et j'ai vu plein de choses vraiment très intéressantes.
Et bien justement, passons en revue quelques informations pour montrer toute la diversité et l'éclectisme de ce livre. Dans une page, au hasard comme ça, sur la longueur en bouche du vin, on apprend ce qu'est une caudalie.
Exactement. C'est l'unité de mesure de longueur en bouche d'un vin. Donc une seconde est égale à une caudalie.
Donc quand on parle d'un vin persistant, c'est qu'il persiste en bouche pendant plusieurs caudalies.
Exactement. Et généralement, au-delà de 7 secondes, au-delà de 7 caudalies, le vin, on peut dire qu'il y a une belle longueur en bouche.
Voilà, vous pouvez compter à la maison quand vous dégustez les vins de votre cave. Comment tenir son vin en société?
Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est toujours mieieux de déguster dans un verre à pied. Pas, ne serait-ce que pour l'élégance, bien sûr, mais aussi pour la finesse des verres que ça procure. Et après, on le tient par la tige ou par le pied, simplement pour pas réchauffer le calice et donc le vin qui est à l'intérieur.
Mais on peut le tenir indifféremment par la tige ou par le pied?
Oui.
Il y en a beaucoup qui le tiennent par le pied, ça peut être un peu hasardeux.
Chacun fait comme il veut, encore une fois, pas de snobisme, comme disait Antoine, et que le vin soit accessible. Donc si vous aimez mettre le petit doigt en l'air ou le déguster dans un verre en plastique, ça vous regarde, mais moi je prône pas ça.
On va essayer de piéger Guilherme quand même, sinon c'est pas drôle. Alors, page 62,
alors, oui.
Le nom du collectionneur de capsules de bouteilles de champagne.
De bouteilles.
Non, de capsules. De capsules
de capsules.
Champagne.
Ah, c'est le placomusophile.
Très bien. À ne pas confondre avec le tapas botufile. Tapas botufile.
Je savais que vous alliez me piéger. Et vous savez quoi? J'ai justement écrit ce bouquin parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et ça me permet de pouvoir me rappeler.
Collectionneur des bouchons de bouteilles.
Ok.
Je pense en une bien dernière. Sûr. Alors, Guilhem, messieurs, faites gaffe, mon chat, vous. Voix noire. Qu'est-ce que ça vient faire dans les guides sur le vin?
Alors, c'est messieurs Marsanais, Fête Fissin, Gaffe Gevray Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chat Chambol-Musigny, vous Vougeot, Vaune Romanée et Noir Nuit Saint-Georges.
C'est un moyen mnémotechnique, c'est ça qui est très drôle, ça fait toute une page pour se souvenir, bien évidemment, on a reconnu les fameux crus de la Côte de Nuit de Bourgogne.
Exactement.
Voilà, très très intéressant, vraiment d'une page à l'autre, c'est fourmillant, c'est ce qu'on pourrait vraiment qualifier de gai savoir autour de tout l'univers du vin. Il y a même du people dans votre livre, on apprend quel était le vin préféré, par exemple, de Napoléon Bonaparte.
Le Grand Cru Chambertin.
Vous avez de la mémoire quand même, ça va?
Bien sûr.
Et le vin préféré de Louis de Funès?
Alors, je ne sais pas si c'était son préféré, mais en tous les cas, il en a eu une caisse du château tous les ans jusqu'à la fin de sa vie. C'était un château Léoville-Lascaz, et notamment pour cette fameuse scène dans L'Aile ou la Cuisse avec Coluche, où il arrive à reconnaître un vin, ne serait-ce qu'en le regardant.
Et bien justement, Louis de Funès, alias Charles Duchemin, en dégustateur à l'aveugle dans L'Aile ou la Cuisse, le fameux film de Claude Zidi. Et puis Guilherme de Saval, vous restez avec nous.
Avec
il y a
grand
plein
plaisir.
De choses autour de la noix à déguster. Et il y a le vin dans un instant d'Antoine Gerbel. Louis de Funès alors.
Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953.
C'est l'automne, préparez vos casse-noix, vous risquez de vous en servir juste après Haïm avec le titre Summer Girl, choisi par Djoubaka. On est bien sur France Inter.
There hard to reach. Your smile's turned into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl.
Drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me.
On va déguster.
Alors ici, entre la vallée du Rhône et le Vercors, ce secteur est propice en termes de climatologie, en termes de géologie, en termes de terre, pour la production de ces noyers, parce qu'il y en a partout.
À mon avis, c'est essentiellement lié au 45e parallèle. Lorsqu'on regarde les cultures de noix sur le globe, on voit qu'on en a donc surtout en Californie, on en a ici en Europe, donc c'est sud-ouest, sud-est. On se décale vers l'Europe de l'Est, on en a en Roumanie, Moldavie, Ukraine. On en a dans le Caucase aussi, et puis évidemment l'ancienne Perse, c'est-à-dire aujourd'hui l'Iran. Hein. L'Iran est un gros producteur de noix. Nous ici, la noix de Grenoble, on est des petits producteurs, puisque les structures sont petites. La noix de Grenoble, c'est 20 000 tonnes à peu près de noix coque commercialisées tous les ans. À peu près la même quantité qu'en noix du Sud-Ouest, la noix du Périgord. De produire de la noix dans des terrains vallonnés, et on le voit là, on le vit, il y a beaucoup de vent.
Ouais.
Et le vent, c'est un ami, sauf quand il est en excès, mais sinon c'est un ami du fruit, c'est un ami de la noix, parce qu'il ventile les arbres, et donc il supprime les maladies, l'humidité baisse, le champignon ne se développe pas. Et sous ces arbres,
il y a de l'herbe.
Vous pouvez remarquer, il y a du gazon, il y a de l'herbe. Donc il faut tondre cet herbe 3 à 4 fois par an. Moi, j'ai décidé, depuis quelques temps maintenant, de passer un partenariat avec un producteur de moutons. Et il m'amène tous les ans une certaine quantité de moutons, et on fait pâturer les plantations de noyers avec les moutons. Et ça, c'est absolument génial, parce que l'herbe est broyée, l'herbe est tondue par les agneaux et par les brebis, et il y a une restitution via la crotte et les urines des animaux, et zéro consommation de gasoil, zéro consommation de tracteur. Donc faire de l'agriculture biologique, c'est très bien, mais il faut la faire comme il faut.
Jean-Noël Chaquet au micro de notre reporter Stéphane Combe. Jean-Noël Chaquet est nuciculteur en agriculture biologique à Montmiral, dans la Drôme. Il fait partie de l'AOP Noix de Grenoble. Oui, car cette appellation de 8000 hectares de vergers se situe principalement dans le département de l'Isère. Mais l'appellation déborde légèrement sur la Drôme à l'ouest et sur la Savoie à l'est. Jean-Noël Chaquet a l'air d'être un producteur heureux, en harmonie avec sa terre. Vous avez entendu cette histoire de moutons qu'il utilise pour le désherbage plutôt que de mettre évidemment des produits chimiques dans ses noirets. Et bien pourtant, cette année, ce producteur est un peu en galère. La météo lui a joué un sale tour.
Ça aussi, c'est un vrai problème, la climatologie. Il y a de moins en moins de précipitations et donc il faut arroser. Arroser ici, ça veut dire pomper dans des nappes phréatiques, les nappes profondes. On remonte des eaux qui ont plusieurs milliers d'années pour arroser. Donc c'est problématique. Voilà, on arrive dans une plantation de noyers variété franquette qui a subi de plein fouet donc l'orage de grêle du 15 juin. Et on peut voir qu'il n'y a pas un seul fruit sur les arbres. D'abord, moi, je suis très triste parce que c'est une année d'effort, une année de travail, une année d'investissement qui s'en va en 12 minutes parce que ça a abîmé mes arbres. Et mes arbres, on aime ces animaux, on aime ces arbres, c'est pareil. Mais voilà, on a des arbres qui ont souffert. Je vous assure que c'est terrible à vivre. Et donc, en fait, les noix ont été broyées, déchiquetées par la violence des grêlons. On a de plus en plus d'orages, on a de plus en plus des vents violents qu'on n'avait pas avant. Cette année, c'est la grêle. D'autres années, c'est effectivement des pluviométries records sur des temps minimes. Jamais on voyait ça avant. Enfin, moi, personnellement, je me rends compte du changement climatique puisqu'on est en lien direct avec la nature. Par exemple, on a un ravageur dans la noix qui s'appelle le Carpocaps. Avant, on avait seulement 2 vols annuels qu'on traitait avec des insecticides bio. Maintenant, du fait qu'on a des sommes de température qui sont beaucoup plus élevées, de 2, on est passé à 3 vols.
Est-ce qu'on voit des parcelles de noyers ?
Là, tout ce qu'on voit en vert foncé, c'est quasiment à 80%, c'est de la noix de Grenoble.
Quand les nucéculteurs sont touchés par la météo extrême, cela représente quand même cette année 350 producteurs touchés sur 850, hein, c'est quand même considérable, un gros tiers. Et 3000 hectares sur les 8000 que compte l'appellation noix de Grenoble ont été durement impactés par ces 3 épisodes successifs de grêle, de vent. S'ajoute à cela la sécheresse, du coup la récolte 2019 ne sera pas un millésime exceptionnel. Et on ira dans un instant rendre visite à un autre nuciculteur bio qui, lui, a bien des noix. Et il entamait d'ailleurs sa récolte. Linda Louis, vous nous venez du Berry, qui est aussi un pays de noix. Comment elle se porte, la noix, dans le Berry? Vous êtes en train de la ramasser? Est-ce qu'il y en a? La récolte est bonne?
Eh bien, à peu près pareil, en fait, qu'à Grenoble. Hein. Cette année, nous épousons notre 2e année de sécheresse. Nous n'avons pas eu de pluie du 15 juin jusqu'au à peu près 15-30 septembre. Donc, les noix sont très petites. Mais alors après, dans le Berry, les noix historiquement ne sont pas très grosses, hein. Même si voilà, vous pourrez retrouver des variétés type franquette parisienne comme dans le Périgord ou à Grenoble, mais nos noix sont généralement utilisées pour être transformées en huile, donc peu importe la taille. Mais cette année, de toute évidence, la récolte n'est pas très bonne.
Il y a des moulins un peu partout dans le Berry où on faisait, écraser, presser sa récolte de noix pour obtenir ce fameux élixir que vous nous avez apporté, avec vraiment des reflets dorés vermeils. C'est une huile de noix qui nous vient du Berry ?
Oui, tout à fait. Alors, traditionnellement, dans le Berry, à l'époque, il y avait à peu près un moulin pour 400 personnes, 400 habitants. Donc maintenant, il n'y a plus que 2 en activité, le moulin de la huilerie d'Auron et le moulin de Pesselière, qui est situé à Jalogne, donc au cœur de la Champagne berrichonne. Donc c'est un moulin à façon. Donc là-bas, on peut y apporter nos noix. Voilà. On peut apporter ses cerneaux de noix, minimum 25 kilos, parce que voilà, comme on ne fait pas tourner la meule pour quelques kilos. Donc 25 kilos, et ensuite on obtient donc une huile qui, pour le coup, est une huile toastée. En fait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude.
Pour développer sa palette aromatique.
Et surtout pour conserver l'huile, en fait. Parce que généralement, l'huile de noix qu'on va trouver en magasin bio est pressée à froid. C'est sûr que c'est une huile qui sera beaucoup plus nutritive. Là, on est sur une huile gastronomique. Et historiquement, la plupart des moulins berrichons étaient des moulins qui produisaient une huile forcément torréfiée. Puisque l'huile, on en parlera plus tard, l'huile de noix, en fait, rancit très très vite. Donc,
Alors, on va en parler maintenant en un mot, justement. Oui, le rancissement de la noix. Pourquoi ?
En fait, elle est très très riche en acides gras polyinsaturés qui se dégradent très.
D'ailleurs, un record, c'est les fameux oméga 3.
Exactement. C'est l'huile la plus riche en acides gras polyinsaturés. Et je ne sais plus ce que je disais.
Qu'elle rancissait, justement.
Et qu'elle rancissait, voilà, effectivement.
Mais contrairement à d'autres fruits à coque.
Huiles, exactement. Elle est très sensible à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène. Donc le fait de la faire toaster permet justement de la conserver pendant un an quand même à température fraîche, enfin dans une pièce fraîche, etc.
Le noyer fait partie du paysage berrichon. Son fruit s'est fait une place dans le patrimoine culinaire de la région d'ailleurs. Et vous allez un peu nous le prouver, même si c'est une extrapolation, on va dire, du terroir berrichon. C'est un pesto à base de noix. Esther, elle est en train de faire circuler un petit bol dans lequel il y a ce fameux pesto avec carrément qui a été mélangé avec des pâtes. Racontez-nous.
Alors, donc, les pâtes sont produites par l'entreprise Les Gourmandes Bio, située pas très loin de Jalogne, justement. Pâtes réalisées avec le tourteau de noix.
On est dans le département du Cher. Hein.
Le Cher 18. Donc, pâtes réalisées avec le tourteau de noix, c'est-à-dire que les noix, une fois passées à la meule, écrasées, sont ensuite torréfiées et sont ensuite pressées. Et d'un côté, vous avez l'huile, de l'autre côté, vous avez le tourteau, qu'on peut goûter aussi. Je crois qu'on va faire circuler aussi une petite assiette. Le tourteau a un goût vraiment biscuité.
C'est le résidu du broyage.
C'est le résidu du broyage. On appelle cela aussi de la farine de noix. Donc on l'utilise en remplacement de la farine, en comptant un tiers de tourteau pour deux tiers de farine. Mmh. Et donc dans la recette des pâtes Les Gourmandes Bio, il y a du tourteau de noix, du fameux moulin de Pesselière, puisque dans le Berry, on agit aussi au niveau local, on est en économie circulaire et les agriculteurs se font tous travailler les uns avec les autres.
Donc quand on vous disait que Linda Louis faisait de la cuisine paysanne.
On a d'ailleurs une auditrice qui se demandait quoi faire avec ce substrat de noix après extraction. Et qui, elle, dit qu'on le met en fond de tarte aux fruits. Isabelle Bonnemont,
elle
suggère ça.
Je pense que ça peut être très très bon sur une tarte aux pommes, tarte aux poires, avec des dattes, des coings. Alors, c'est une saveur qui est assez forte, torréfiée. Donc, on ne peut pas du tout la substituer à de la farine. J'ai presque envie de dire utiliser une farine de blé type T65 assez standard pour vraiment réveiller en fait, la saveur de ce tourteau de noix.
Pour parler après.
Oui, c'est un peu sec. Hein.
Ça sèche carrément la bouche, on a l'impression de manger du sable, même si le goût rustique est vraiment délicieux. Linda Louis,
oui.
On a compris que ces pâtes locales étaient liées, donc même froides, donc ça marche en salade, par ce fameux pesto dont vous nous expliquez le secret, parce que là, on est évidemment... La noix est au centre du jeu dans cette affaire.
Alors, j'aime beaucoup la cuisine italienne, mais j'aime beaucoup aussi faire des pestos avec les produits de ma région. Donc, quand je n'ai pas de basilic, je vais glaner de l'ortie fraîche. Et là, fort heureusement, il a replu depuis 15 jours, donc...
L'ortie repousse dans les jardins.
Hourra. Il faut mixer après, c'est bon. Hein, mais
quel apport en protéines.
Voilà, en fait, c'est l'une des plantes les plus riches en fait en protéines et puis en silice. Donc, si on devait en garder qu'une, ce serait l'ortie. Donc, de l'ortie mixée avec de l'huile de tournesol. J'ai pas utilisé l'huile de noix en fait parce que j'ajoute juste un tout petit peu à la fin l'huile de noix toastée qui est très aromatique.
Donc, une huile plus neutre.
Voilà, une huile plus neutre en mélange avec cette huile toastée, des noix forcément, et puis pas de parmesan mais du crottin de chavignol, du chieuvre comme on dit chez nous, bien sec.
Génial, donc pas de pignon, de basilic et de parmesan comme dans le fameux pesto alla genovese, mais de la noix, enfin les mêmes correspondances mais version berrichonne, et c'est un super résultat. La recette comme toutes les autres sont sur franceinter.fr à la page on va déguster. Avec 35 000 tonnes de noix récoltées chaque année, la France est quand même le premier producteur européen, le deuxième exportateur mondial. 80% de la production de noix française est exportée, et d'ailleurs à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Espagne, la noix française est vraiment considérée comme un produit du terroir de très haute qualité. La récolte 2019 de la noix de Grenoble a officiellement commencé mercredi dernier, le 2 septembre. Elle se prolongera pendant tout le mois d'octobre. Je vous propose de retourner dans le Dauphiné et plus précisément à La Rivière, un village situé dans le département de l'Isère. C'est là qu'est installé Franck Adiard, producteur de noix de Grenoble bio. On va se balader dans sa noiraie au tout premier jour du ramassage.
Ah oui, on voit déjà quand même, ça commence à être bien ouvert, hein. Les noix là, on les voit au-dessus. La noix se libère du brou.
Oui, la pluie de la nuit a fait bien mûrir, donc on voit qu'il y a même des noix au sol là. Donc on va pouvoir commencer le ramassage pour enlever au plus vite celles qui sont tombées, pour pas qu'elles s'abîment. Donc là oui, on voit les fruits qui commencent à être bien fendus. Donc fendu, c'est la coque verte, le brou. Donc on voit qu'il s'est ouvert là avec l'humidité qu'il y a eu cette nuit. Donc on peut faire tomber les noix en tapant dessus. Attention à la tête. Donc voilà, ça c'est une franquette, une des trois variétés de l'appellation protégée noix de Grenoble. Voilà, on casse la coquille pour l'ouvrir. On voit une noix qui est bien à maturité, avec les cloisons à l'intérieur qui sont brunes, et un cerneau qui se détache de la coquille. Et deuxième signe, c'est cette paroi qui est entre les cerneaux, qui doit être brune. Donc on a un cerneau très blanc. Et il y a plusieurs méthodes pour la manger. Ceux qui aiment bien l'amertume vont laisser la petite peau qui est sur le cerneau. Et ceux qui préfèrent une noix plus douce vont, avec patience, retirer cette petite membrane pour avoir un cerneau beaucoup plus doux en bouche.
Alors là, elle est très très blanche. Hein.
C'est vraiment, là, quand elle est fraîche, on a un cerneau qui est moelleux, puisqu'il est encore un peu gorgé d'eau, et très blanc.
Je peux en prendre un petit bout ?
Bien sûr.
Dès qu'on la met dans la bouche, le parfum n'explose pas.
N'explose pas tout de suite, ouais. Mais après, c'est assez long en bouche, par contre.
Qu'est-ce que vous conseillez là ? Vous qui êtes producteur bio de noix de Grenoble, il faut la manger tout de suite ou il faut la laisser sécher et la manger un peu plus tard ?
Alors c'est toujours un plaisir de manger les premières noix fraîches. Après c'est vrai que c'est quand même plus facile de le manger en fruits secs, déjà pour la conservation. Et ensuite pour les valeurs aussi gustatives. Une fois qu'on a le fruit sec, on a un fruit un peu plus complexe en bouche, un peu plus élaboré comme saveur. Là, on est donc dans une de mes parcelles de mon exploitation. Donc, j'exploite à peu près 15 hectares en bio. Donc, vous pouvez voir que c'est totalement enherbé, puisque j'utilise pas de désherbant au pied des arbres pour enlever l'herbe. J'entretiens tout ça mécaniquement. Donc, moi, j'utilise des farines de plume ou des cendres de céréales, par exemple, pour amener de l'azote dans mes champs et nourrir les noyers.
Et ça, vous le faites quand ?
Je commence fin février, en fait. Donc, bouillie bordelaise, principalement au printemps, pour lutter contre quelques maladies dues à des champignons et des bactéries. C'est des arbres qu'on garde jusqu'à 80 ans. Un noyer, ça fait à peu près une trentaine de kilos de noix sèches. Et là, tout confondu, je fais à peu près 45 tonnes de noix par an.
Vous avez combien de noyers,
Franck ? Eh bien, ça fait à peu près 1500 noyers.
Les noix de Grenoble, c'est une seule et unique variété de noix ?
Non, il y en a trois dans l'AOP. La Franquette, qui représente à peu près 80% du volume de l'AOP.
Est-ce qu'il y a le cas autour de nous, là ?
Ici, voilà, ouais, c'est des Franquettes qu'on a ici. Après, on a la Parisienne, qui représente à peu près 20%, et la Maillette, qui est encore un peu moins répandue.
Alors ça, celle-ci, là, que je viens de ramasser... Mm-hmm. Alors ça, c'est quoi ? C'est une
Franquette. On la reconnaît à sa forme allongée et elle se finit avec cette petite pointe là. La Parisienne est une noix plus ronde et qu'on peut poser, elle tient debout.
La petite pointe, du reste, ça picote le doigt.
Ça picote, faut pas qu'elle nous tombe sur la tête.
Le plateau dont on va déguster est très dissipé. Alors, interrogation orale, chère Linda Louis. Les trois variétés, on va voir si elle est bien écoutée ce son. Les trois variétés de noix dans l'appellation noix de Grenoble.
Donc, Franquette, Parisienne et Mayenne.
Bravo, Mayette.
Mayette, pardon.
Mais c'est presque ça. Non, bravo, vraiment. Avec vous, Linda Louis, je vous propose de retrouver un peu la nostalgie de nos... Allez, on appelait ça comment, les cours de sciences nat ?
Oui, c'est ça, sciences nat, avant
aujourd'hui,
ça s'appelle SVT.
Voilà, nos enfants diraient sciences de la vie et de la terre. On a dans la main une noix entière, enveloppée de son manteau vert. C'est comme ça, à l'état brut, qu'on ramasse la noix. S'il fallait procéder à une petite dissection, qu'est-ce que vous faites, Estrel ?
J'avais envie de vous casser les noix, j'ai pas cru.
Ah, ça y est, vous vous êtes armé effectivement de votre casse-noix. Et là, il y a les noix de Grenoble un peu partout sur le plateau dont on va déguster. Ce fruit ?
Alors, ce fruit ne craque pas si on le passe directement sous le casse-noix, forcément, puisqu'il est enveloppé d'une chair verte qu'on appelle le brou,
oui.
qui est un beau vert pistache, mais qui tache énormément, qui s'assombrit, qui permet de faire des teintures d'ailleurs.
Donc, c'est vrai.
Chair à soulage à ses débuts.
Eh oui, j'avais complètement oublié ça, mais il a raison, Antoine Gerbel. Oui. C'était une matière première de soulage dans l'Aveyron.
D'accord. Et moi, je l'utilise pour faire des teintures, teindre des tissus. Pour en ce qui concerne la partie vraiment après botanique, cette enveloppe verte, donc on appelle ça le péricarpe, c'est ce qui entoure en fait le noyau.
Donc oubrou.
Oubrou.
Ou parfois même écale.
Alors, on peut appeler ça aussi écale, effectivement, mais c'est un terme qui va être... C'est plus un nom vernaculaire, c'est pas forcément un nom botanique. Et ensuite, vous accédez donc à une coquille, au noyau, et derrière cette coquille, vous trouverez le fruit. Et en fait, la noix ressemble, au plan botanique, à la pêche, à l'abricot, à la cerise, qui, eux aussi, en fait, ont une chair qui, pour le coup, est consommée. Pas pour la noix, et on consommera jamais l'amandon des pêches. Alors, des abricots, oui, dans les confitures.
À petite dose.
À petite dose, 10 maximum dans un litre de confiture, à peu près, dans un kilo de fruits, un kilo de sucre, parce que ces amandes-là contiennent de l'amygdaline. Ce qui n'est pas le cas de la noix. La noix, c'est justement ce qu'on recherche, c'est ce fruit caché derrière la coquille qu'il faut briser.
C'est cela. Et ce noyau, en fait, est divisé en deux hémisphères. Mmh. Cerneau, cerveau, on n'est pas si loin, à la fois en termes de nombre de lettres, mais on n'est pas si loin non plus visuellement.
Exactement, d'ailleurs, on pourrait parler de la fameuse théorie des signatures qui a été évoquée par Paracels, qui indique que la forme des plantes, aussi bien la couleur, l'odeur ou l'écologie, indique la maladie ou les organes qui sont capables de guérir. Donc on pensait à l'époque que la noix était très bonne pour le cerveau, pour la mémoire. Et je me suis renseignée là-dessus, parce que je me suis dit, est-ce que c'est une légende ? Parce que la théorie des signatures est souvent discutée, on dit que c'est plus un moyen mnémotechnique qu'une preuve scientifique. Mmh. Et il y a une étude qui a été menée justement sur Grenoble. On a essayé de vérifier que cette noix était très bonne pour le cerveau, et en effet, elle facilite les capacités cognitives des Grenoblois qui mangent à peu près une dizaine de cerneaux de noix par jour. Voilà, c'est la base.
Guillaume de Serval qui disait tout à l'heure qu'il avait une mémoire de poisson rouge, une petite cure de noix, Guillaume.
Bah ouais, je vais m'y mettre tous les jours.
Voilà. Il va même s'installer à Grenoble. Et quand on voit la source formidable de minéraux et de vitamines, cuivre, magnésium, phosphore, zinc, fer, potassium, on l'a dit, record en termes de teneur en oméga-3. Bon, bah bravo, la consommation de 7 noix par jour favoriserait même l'amélioration de l'élasticité des vaisseaux sanguins et le maintien d'un taux de cholestérol normal dans le sang. Vive la noix, en général et la noix française en particulier. Merci beaucoup. On fait circuler, et Antoine va nous parler vin, on fait circuler juste une recette dont vous nous donnez l'énoncé, simplement, avec girolles.
Velouté de girolles, de purée de noix de baies de genièvre fraîche glanée également dans le Berry.
Vous nous préparez quelques petites assiettes ?
Oui, je crois que Guilherme m'a aidé aussi.
Le vin avec Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce que l'accord marchera avec le vin surprise ? Je vois qu'il est sous sa chaussette et ce fameux velouté. On va voir ça dans un instant avec vous, Antoine Gerbel.
Alors, vous venez d'entendre un ussiculteur se plaindre de cette année très sèche. Et effectivement, aujourd'hui, on peut, dès qu'on est agriculteur et viticulteur, on est forcément au cœur de ce problème. Comment faire pour essayer d'esquiver tous ces problèmes de sécheresse, d'anticiper, on va dire, cette maturité précoce. Parce que tout simplement, ce soleil qui est là au-dessus de nos têtes, de plus en plus au-dessus de nos têtes, il accélère la maturité ou parfois il bloque aussi la maturité des raisins. Alors, réchauffement climatique, que faire ? Mais moi, j'ai une réponse plutôt positive. Alors, il y a des mauvaises réponses dans le milieu viticole. Par exemple, ajouter de l'eau. C'est interdit, mais certains le font.
L'irrigation, on en parlait d'ailleurs dans les noirs.
Même pas l'irrigation, ajouter de l'eau dans le vin. Je vous assure qu'en ce moment, c'est interdit et beaucoup le font, malheureusement. Non pas pour tricher, pour faire plus de volume comme jadis, mais pour amener un peu plus d'équilibre dans le vin. Certains acidifient, je dirais beaucoup acidifient aujourd'hui, c'est légal. Voilà, vous rajoutez de l'acidification, du tartrique, enfin, pour donner un petit peu plus d'énergie à vos vins qui sont alourdis par ce soleil. Il y a l'irrigation, là on parle de la vigne, alors qui est soutenue par une partie du syndicalisme. En font la promotion. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment la définition d'un grand vin de terroir d'aller chercher la solution dans l'irrigation, mais c'est un autre débat. C'est un jeu de piste. Et il y a quelqu'un qui a, depuis 98, 2003, 2009, je vous cite trois grands millésimes chauds dans le sud de la France, à chercher des solutions. Et ce vigneron, il s'appelle Jean-Baptiste Sénat. Jean-Baptiste Sénat, il ne nous écoute pas puisqu'il est en train de regarder le match de rugby entre la France et les Tonga. Et ça vous dit un petit peu le profil du garçon, grand, colosse, solide. Il est installé dans le Languedoc-Roussillon, dans le Minervois. Et il travaille sa terre avec intelligence depuis 24 vendanges. Et il se pose cette question, comment garder de la fraîcheur dans mes vins, comment garder cette appétence pour ce pays de cocagne qui est Languedoc-Roussillon, puisqu'il fait très beau, très, très chaud, tout pousse, mais où il faut aller chercher de la fraîcheur. Et il a eu cette idée toute simple, très ancienne, presque romaine, d'aller complanter des raisins rouges et des raisins blancs dans la vigne. Complanter, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous mélangez les raisins rouges, en l'occurrence la famille du grenache, vous mettez des grenaches noires à côté de grenache gris, qui est un vin blanc, un raisin blanc mais un peu teinté, et des grenaches blancs. Vous récoltez tout ça en même temps, vous mettez tous ces raisins dans la cuve et vous faites une petite macération, tranquille, comme un vin rouge. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus léger qu'un vin rouge, parce que là, il y a une sorte d'équilibre qui se fait entre la peau rouge des raisins et l'énergie, on va dire, la fraîcheur qui est naturellement sur les raisins blancs. Et vous avez ce que vous avez dans votre verre.
Oh là là, alors, qu'est-ce que c'est bon.
Alors,
c'est magnifique, hein.
François-Régis, c'est un rouge ou c'est un rosé?
Ça fait partie de ces, moi j'appellerais ça un peu, une infusion de raisins. C'est quelque chose qui est pas une grosse extraction et ça pourrait me faire penser évidemment, à Eric Pifferling à Tavel, même si évidemment on n'est pas sûr. Sur le même terroir.
On est sur cette piste-là, on n'est pas tout à fait sur le même méthode.
Guilherme. À l'aveugle, on pourrait se dire que c'est un vin dans l'infusion. Les Bordelais peuvent l'appeler claret aussi, c'est un peu cette teinte-là.
Mm-hmm. Alors vous avez raison, ça nous rappelle les vins d'Eric Pfefferling, le fameux Langlore de Tavel, mais aussi les Grillons de Nicolas Renaud,
et oui,
ou Guillaume Gros,
qui fut un de ses disciples.
En Luberon. Et c'est une réponse, je dis que c'est une réponse parce que c'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire de grands plans quinquennaux pour modifier ça. Si les vignerons réfléchissent à mettre un peu plus de blanc, je rappelle que la belle appellation Côte-Rôtie, très célèbre dans le nord de la vallée du Rhône, s'autorise 20% de Viognier à côté de la Syrah. Et c'est ce qui fait son succès. Les Côte-Rôties sont plus aromatiques, plus séductrices que les ermitages voisins qui sont beaucoup plus terriens et elles 100% Syrah. Donc il y a un chemin à suivre, très simple, mais en même temps voilà, c'est un chemin de vigneron, un chemin de terroir, c'est-à-dire que il faut pas faire de grandes politiques pour faire ça. Et moi j'ai aimé ça parce qu'il m'a réconcilié avec ce fameux débat, faut-il boire tous les rosés de l'été ? Non, moi je dis non, moi je veux du goût dans mon rosé, et ce rouge pâle ou ce rosé foncé, il nous ramène vraiment, il nous donne des solutions, et j'ai adoré ça. Alors la bonne nouvelle en plus, c'est que ça ne coûte pas très cher, on est à 12 euros chez les cavistes, quand même un vin signé, bon bien évidemment j'ai oublié mais c'est une évidence. Il est en bio, il suit très bien la culture de la biodynamie. C'est un vrai vigneron moderne d'aujourd'hui. Et il fait un vin à 12 euros parce qu'il veut pas se couper des consommateurs. Guilherme, ça va te parler parce que toi aussi, tu es sur ce terrain-là, rendre les vins appétissants et accessibles à tous. Bien alors, bien. Le 2018 que vous avez dans votre verre, il est malheureusement épuisé. Il est en train de s'épuiser. Il y a quelques cavistes encore. On verra sur le site du site On va déguster. Il y a des adresses et surtout l'adresse du producteur qui vous dira où trouver encore ce vin. Et le 2019 qui arrive. Et alors, un dernier mot sur les vendanges 2019. 2019 est une année très chaude, mais en fin de compte, qui va donner des vins étonnamment frais. Cette couverture de chaleur qu'on a eue pendant presque 3 mois et demi a un peu bloqué la vigne, mais n'a pas dégradé tant que ça l'acidité. Et vous allez être étonné. Attendez-vous à retrouver des vins plutôt digestes en 2009, en tout cas plus digestes qu'en 2018.
Merci beaucoup Antoine Gerbel. Vous nous rappelez d'un mot le nom du vigneron à Minervois. On peut retrouver les références sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Alors c'est un couple, parce que l'allemand voudrait, c'est Charlotte et Jean-Baptiste Sénat.
Et oui, faut pas l'oublier.
Et la cuvée s'appelle mystérieusement amalgame.
Très bien, merci beaucoup. Délicieuse que l'on est en train de goûter, veloutée de girolles avec de la poudre de noix. En trois mots, la recette.
Vous faites revenir ail, oignon dans une casserole. Vous ajoutez un petit peu de lentilles jaunes.
Oui.
En fait. Alors, vous pouvez aussi ajouter des lentilles du Berry. Mais là, ce matin, j'ai utilisé des lentilles jaunes chez mon ami Clémence Cat. Et ensuite, donc, vous faites cuire pendant à peu près une dizaine de minutes. Parallèlement, vous faites revenir à la poêle les girolles à feu vif jusqu'à temps qu'elles rendent leur eau de végétation, que vous rebasculez dans la casserole. Et ensuite, on ajoute les girolles et au dernier moment, au mixage, on incorpore la purée de noix. Là, celle-ci, elle vient du moulin de Pesselière qui a été...
C'est un régal.
Délicieux.
Et le vin surprise de Guilherme de Serval pourrait s'accommoder de ce velouté?
Oui.
Pourquoi pas, effectivement. Moi, j'aime bien remettre le vin surprise. Vous m'avez demandé un coup de cœur. Et justement, ce coup de cœur, je suis tombé amoureux de cette bouteille-là depuis le 7 juillet dernier. Donc, je ne suis plus célibataire, malheureusement, depuis ce jour-là. Mais pour remettre le vin dans le contexte, parce qu'il faut un contexte à chaque fois, j'étais à Port-Navalo, à Port-Nave, comme on dit là-bas, dans le golfe du Morbihan. On décide avec des amis d'aller au restaurant La Pointe, qui est génial, sur une terrasse, un rooftop, sur un bunker, avec une vue à 180 degrés sur la mer. Il y a des embruns d'iode et autres. C'était merveilleux.
On y est avec vous.
Je prends la carte des vins et je vois une appellation qui m'interpelle, qui s'appelle Coteau du Vendômois. Je vous rassure, il n'y a pas de coteau sur la place Vendôme à Paris, toujours pas. Mais ça, c'est une petite appellation en référence à la ville de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, dans le 41.
On n'est pas très loin de chez Linda Louis.
On est juste
exactement.
À côté. Juste à côté.
Et en fait, c'est une appellation qui est toute petite, qui est un peu sous-estimée. Ça fait un peu plus de 150 hectares. Pour vous donner une idée, le château Margaux, ça fait à peu près 260 hectares à titre perso.
Donc, on n'est pas sur la même échelle.
On n'est pas sur la même échelle. Là, le domaine s'appelle Patrice Collin. Il existe depuis 1735. Il est en agriculture biologique, bien sûr. Il récolte à la main. Il a 25 hectares. Cette cuvée est faite à base de chenin. Il n'y a pas de côté sucraillon comme on pourrait l'imaginer ou autre. C'est un vin sec qui s'appelle Pierre à Feu. Rien à voir avec la famille, bien sûr. Mais ce vin-là, moi, il me fait vibrer. Alors, il y a de la chair, il y a un côté séveux, il y a du mordant. Il y a une
grosse acidité.
Et une grosse acidité aussi. Alors, bon, bien sûr...
Parce que la noix demande cette acidité. Hein. Il y a quand même, rappelez le Sauvignon dans le Berry, quand même, c'est le royaume du Sauvignon avec le Sancerre, le Mentoux, les Reuilly, et ils vont très bien aussi.
Elle a une saveur très sucrée, et à la fois sucrée et douce, et il faut effectivement contrebalancer, à mon humble avis, hein, avec
bien
des vins fringants qui permettent de bien la mettre en valeur.
Et il faut du salin pour pouvoir justement une gorgée, appelle l'eau de gorgée. Et alors, vous rajoutez dans tout ce contexte-là, pas, comme disait Monsieur Feu Chirac, le bruit, l'odeur, mais vous rajoutez à ça des amis, du soleil et une vue sur la mer. Je peux vous dire que la vie est belle.
Bien.
Très bien.
Avec ce vin-là.
Une idée du budget pour cette cuvée?
11 euros à la cave de Belleville et 8,90 euros sur le site de Patrice Collin, patricecollin.com.
Ce qui reste accessible pour un vin d'auteur.
Exactement. À ce prix-là, c'est la foire au vin toute l'année.
Merci Guilherme de Serval pour ce charmant cadeau. Mais surtout ne partez pas, il y a encore d'autres
choses.
Avec plaisir. Dans un instant, la noix en dessert, bah tiens, on va la goûter justement. On va aussi goûter aux aventures périgourdines d'Estérel Payani et puis d'autres recettes, on l'a dit, avec bien entendu notre invitée berrichonne Linda Louis, Beau Rivage. Dominica.
Nous échouerons à Beau Rivage, aurons perdu beaucoup de temps, égarés dans visage qui ne nous allait pas vraiment auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons sans l'avoir prévu par temps clair sur beau rivage nous échouerons avant qu'on voie tes mondes meilleurs à force de marche entravée dans le vin déroulé des heures avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici nous échouerons à Beau Rivage l'endroit parfait qui nous attend par d'autres lieux pris en otage auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons sans l'avoir prévu par temps clair sur beau rivage nous échouerons nous sommes heurtés à des barrages à des croix tout juste dressées à travers l'un des marécages sans chemin avons repoussé essuyant des larmes d'orage au fond de vallées dépeuplées nous échouerons à Beau Rivage l'endroit parfait qui nous attend par de la langue
Toi, Aimé-Noix, reste avec nous. On décline ce fruit à coque de toutes les façons sur le plateau dont on va déguster. On va même passer au sucré. Mais il y a beaucoup de réactions de nos auditeurs sur qui nous envoient des mails sur onvadéguster@radiofrance.com et depuis le bouton réagir sur l'appli mobile de France Inter. Et notamment en ce qui concerne des noix vertes, c'est-à-dire les noix avant maturité, on va dire les noix un peu estivales.
Oui, et c'est quelque chose qui est répandu dans toutes les régions et les pays. Puisqu'on a Guillaume qui nous signale qu'en Alsace, il les cueille à la Saint-Jean pour faire le... Nusnaps, un digestif très populaire. On a aussi Luca qui nous signale qu'en Italie, on fait il nocino avec les noix vertes ramassées la nuit de la Saint-Jean par des vierges avec du sucre et de l'alcool à 97 degrés.
Avec des vierges.
Oui, sinon, c'est difficile à trouver. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui nous signalent qu'il y a des noix dans toute la France, qu'on oublie de parler du Nord, enfin, c'est beaucoup plus répandu.
Et il n'y a pas que le 46e parallèle, et même dans les jardins.
Voilà,
c'est un fruit de jardin. De nombreux auditeurs, il y a évidemment de la noix, même si il y a une réputation autour du noyer, on dit qu'il ne faut pas trop faire de... C'est Laurent Thomas qui me le rappelait il y a quelques jours. On dit qu'il ne faut pas faire une sieste sous un noyer.
Alors c'est un dicton populaire, on n'a pas...
Ça ferait mal à la tête, me dit-elle, en me montrant mon front.
L'ombre d'un noyer est effectivement très 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 rafraîchissante.
Un ami sénégalais m'a dit la même chose sur les cocotiers.
Alors, on suppose que c'est les principes actifs produits par les feuilles, donc qui contiennent de la juglone, qui est donc un principe actif qui peut être effectivement, peut potentiellement donner des maux de tête. Mais bon, il y a une bataille, on va dire, entre certains, les scientifiques, les botanistes et le folklore populaire qui estiment que le noyer est vraiment, voilà, peut donner mal à la tête.
Voilà, donc...
mais il est vrai qu'il fait frais sous un noyer.
Et c'est une bonne chose. Et il pousse pas grand-chose sous un noyer aussi, donc il y a peut-être une raison un peu...
Toujours à cause de la juglone.
Voilà.
Ça, par contre, c'est clairement scientifiquement prouvé que la juglone inhibe la croissance et la respiration en fait de certaines plantes. D'autres s'y plaisent, mais la plupart non.
Et Laurent Thomas, qui décidément s'y connaît beaucoup en noix, nous a apporté un vin de noix absolument délicieux. Vous allez avoir du mal à rivaliser avec celui-ci.
J'ai fait
la préparation de l'émission depuis 8 heures en sirotant des petites lampées comme ça de vin de noix avec cette aromatique absolument prodigieuse. On a beaucoup de questions de nos auditeurs sur le vin de noix. Malheureusement, c'est pas du tout la saison, l'automne, pour faire un vin de noix.
Pour faire un vin de noix, on utilise donc les fruits ultra frais. Alors, on parlait de la Saint-Jean un peu plus au sud, donc on les ramasse...
Saint-Jean, c'est 24 juin.
Vers le 24 juin. D'autres recettes préconisent de les ramasser vers le 14 juillet. Par chez moi, c'est le 14 juillet, mais il fait un peu plus frais, donc ça peut paraître logique. On ramasse à peu près une trentaine de noix vertes. Donc, ces noix ne contiennent pas encore la coquille. La coquille est très tendre. On peut les transpercer avec une aiguille.
Elle est embryonnaire.
Facile. Elle est embryonnaire. L'amande est gélatineuse, blanche, de couleur lait. Mais les doigts tâchent quand même. Parce qu'il y a toujours donc cette substance donc qui teinte les doigts.
Et c'est tanin.
Et c'est tanin, effectivement. Et donc, vous faites macérer les noix alors dans de l'alcool de fruits à 40 degrés, parce qu'on ne trouve plus d'alcool à 90 dilué. Et après, avec de l'eau, ça ne sert à rien. Donc, autant utiliser de l'alcool de fruits. Mm-hmm. Vous faites macérer pendant 2 mois avec du sucre et du vin. Et puis après, vous filtrez. Voilà. Il y a des recettes très, très différentes en fonction des familles.
Mais la vôtre marche bien.
Mais la mienne marche bien, oui.
Vin de noix à faire quand les noix sont embryonnaires. Et puis la noix fraîche, quel bonheur. Ce petit goût également très laiteux avec la petite pellicule qui parfois est un peu amère ou astringente. Il y en a qui l'épluchent, d'autres gardent la peau. Mais en tout cas, c'est délicieux. J'aperçois un autre liquide. C'est pas du tout un vin de noix, mais attention, c'est plutôt un lait de noix. Oui, et là, c'est une super belle idée.
Alors, j'ai repris le principe des laits végétaux, où c'est vrai que dans le commerce, on va trouver généralement du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de riz. Là, il s'agit de faire tremper 100 g de noix sèches toute une nuit pour les réhydrater, de bien les rincer et de les mixer avec 800 ml d'eau filtrée. Et vous obtenez donc du lait ou une purée assez onctueuse. Vous la filtrez, donc dans la bouteille, vous allez trouver du lait.
Oui.
Et de l'autre côté, vous allez trouver un résidu sec qu'on appelle l'ocara.
Eh bien oui, alors l'ocara, goûter. C'est pas uniquement le résidu pour faire un lait végétal de noix, ça peut être de l'amande,
exactement,
de la noisette.
Et donc là, j'en ai là aussi à goûter, si vous voulez.
Ah, incroyable. Je veux bien goûter ce lait de noix. Vous connaissiez évidemment très bien la recette, Estherelle Payani.
En fait, c'est ça marche avec tous les laits végétaux.
Mais c'est vrai qu'on voit moins le lait de noix, curieusement.
Mais parce qu'on a tendance à les acheter, alors qu'en fait, c'est très simple à faire à la maison avec un bon mixeur, un peu d'huile de coude. Ça se presse très, très bien, en fait.
Antoine Gerbel, goûtez ce lait de noix. Vous nous faites un petit commentaire,
alors,
s'il vous plaît.
J'ai déjà encore en bouche le vin de noix de...
Ah.
Ça risque de...
2016, hein, parce qu'elle a millésimé. Laurent a millésimé son vin de noix, qui est très beau. Et ça me donne une petite occasion de parler de vin. Vous savez que les noix, c'est aussi un arôme de noix qu'on retrouve dans les grands vins jaunes du Jura. On aurait pu faire une chronique sur les vins jaunes du Jura. Ce côté noix, qu'on appelle le sautolon.
Oui.
C'est un terme technique, scientifique, mais c'est tous ces arômes. Et d'ailleurs, la famille des oxydatifs, voilà.
Mais c'est notre auditeur, Christophe Sibyl, qui nous dit sur Twitter, d'ailleurs, j'ai adoré ce tweet, le meilleur vin de noix, c'est Château Chalon.
Voilà, un clin d'œil avec ce grand cru du Jura.
Absolument. Alors, vous aimez ou pas ce lait de noix? C'est délicieux. Il y a toute la délicatesse de la noix. C'est pas trop fort. Mais alors, et puis c'est nutritif.
Et ajouter un ingrédient secret, quelques gouttes d'huile essentielle d'orange pour apporter une petite saveur.
C'est presque un dessert en fait.
Ça fait toute la différence. Il est temps de venir à l'histoire périgourdine de notre amie Estherelle Payani.
On va déguster. Sur France Inter.
Ma chère Estherelle, s'il y a bien une cuisine à la noix, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche évidemment, c'est la cuisine périgourdine. La noix du Périgord est importante, n'est-ce pas Estherelle?
Il n'y a pas que Grenoble qui en pense pour les noix. En Périgord, c'est même une histoire qui ne date pas d'hier, puisqu'on a retrouvé des traces de noix dans les habitations des Cro-Magnons de la région. Mais c'était surtout l'huile de noix qui était précieuse, non seulement pour manger, mais surtout pour s'éclairer.
Ah bon?
Et à tel point qu'elle servait à payer les baux aux abbayes au XIIIe siècle. Ensuite, elle a été exportée via Bordeaux, en Hollande, en Allemagne ou en Angleterre durant tout le XVIIIe siècle, avec une production très généreuse. Mais au XIXe, la noix a de nouvelles concurrentes, comme l'huile de colza et d'arachide, et sa culture se met à décroître. Aujourd'hui quand même, la noix du Périgord, c'est la deuxième production française, AOC depuis 2002, AOP depuis 2004.
C'est donc la deuxième noix française à bénéficier d'une appellation d'origine protégée.
Mais par contre, elle concerne 4 variétés, dont la franquette, dont on a déjà beaucoup parlé pour Grenoble et pour le Berry, mais 3 variétés historiques de la région. On a les variétés Corne et Marbeau, qui se conservent longtemps dans leur coque, et aussi la Grandjean, qui serait plutôt originaire de Sarlat, avec une coque tendre, plus facile à casser, vendue essentiellement sous forme de cerneaux. Et ces cerneaux sont les seuls à avoir une AOP en France.
Ah.
Car les noisages...
Le quoi ?
Les noisages, mais on dit aussi dénoisillage, vous y penserez pour votre prochain Scrabble bien sûr, c'est l'art minutieux de récupérer les cerneaux et ça se fait encore à la main.
Les noisages ou dénoisillage, j'adore ces mots anciens qui appartiennent au répertoire populaire. Alors avec ces noix, qu'est-ce qu'on prépare dans le Périgord?
Alors pour vous répondre, j'ai d'abord cherché dans ma bibliothèque la Bible de la cuisine du coin, c'est-à-dire la Bonne cuisine du Périgord, publiée en 1929 chez Flammarion. C'est le premier ouvrage consacré à la cuisine de cette région qui a depuis été réimprimé quasi non-stop. Et bien évidemment, son auteur est une autrice.
Ça ne pourrait pas être autrement avec vous.
Même si sur la couverture, ce n'est pas si évident au premier abord, parce qu'elle se cache sous le pseudonyme de La Mazille. Son nom complet, c'est en fait André Malémaz, putéolienne de naissance et de décès.
Putéolienne.
Pour les mauvais esprits comme le vôtre, je rappellerai donc juste que putéolienne signifie habitante de Puteaux.
Elle l'a fait exprès.
J'ai habité Puteaux surtout. Mais dont la famille était originaire de Neuvic. Neuvic, c'est à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Périgueux. La petite histoire dit d'ailleurs que La Mazille aurait récupéré le carnet de recettes de Victorine, la cuisinière familiale, puis complété en recueillant les recettes des fermes des environs qu'elle visitait à vélo.
Oula.
C'est bizarre, ça me rappelle une histoire que je vous ai déjà racontée il y a quelques semaines.
Oui, Margaridou.
À Clermont-Ferrand, la même. Le tout est illustré par les dessins à la plume de René Maz, sa sœur. Et La Mazille, c'est aussi le nom du prix littéraire décerné au Salon du Livre Gourmand de Périgueux depuis 1990.
Et oui.
C'est quand même dommage qu'on ne lui ait pas rendu hommage de son vivant puisqu'elle est morte en 84.
Les traditions des cuisines régionales, ce sont les femmes qui les ont transmises, par oral ou par écrit. Et que dit donc La Mazille de la cuisine périgourdine?
Bon, alors parmi les 400 recettes, je vous préviens, c'est pas franchement léger ni vegan. Hein. Ça y va franco sur le confit, l'anchois, l'omelette au cèpe, les truffes, les couennes, pâtés et compagnie. On y trouve aussi des plats moins connus, comme la saubronade, qu'elle qualifie, je cite, de « soupe très locale qui ne plaira pas à tout le monde » et la cuillère doit se tenir toute droite dedans. Elle est le pendant du hoche-pot normand, de la potée lorraine et autres soupes que chaque région revendique à base de salé, de choux et de légumes. La saubronade, elle est surtout à base de haricots et de raves et c'est bien plutôt un plat qu'une soupe. Mais ce qui m'a le plus étonné dans cet ouvrage, c'est le lien affirmé avec la cuisine du Sud-Est, notamment provençale. Comme le beurre de Gascogne, dont La Mazille dit que c'est une sorte d'aïoli provençal qui est fait avec de l'ail cuit.
Je ne connaissais pas.
Il y a aussi de la bouillabaisse de morue. Et même, on va aller encore plus au sud avec les œufs ravigotants.
Les œufs ravigotants. Le jour où je verrai œufs ravigotants sur une carte de restaurant, je serai très content. C'est quoi ?
À la tomate et au piment, dont La Mazille dit, je la cite, « Les personnes qui ont coutume de faire ce plat en Dordogne prétendent qu'il y a de l'analogie avec les fameux œufs à la chouchouka, le régal cher aux Tunisiens et aux Marocains. Les personnes qui redoutent le plus le piment peuvent mettre à la place du fromage râpé. Mais alors, ce ne sont plus les œufs ravigotants du Périgord, et encore moins les œufs à la chouchouka. »
Chouchouka ou tchatchouka, qui est un plat qui revient beaucoup à la mode dans les restaurants, et notamment un peu quand même les restaurants branchés, il faut bien le dire. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos noix. Elle en faisait donc quoi, La Mazille, de ces fameuses noix du Périgord?
Alors, on trouve des recettes de croquants, de liqueurs, du vin de noix, et aussi une mayonnaise à l'huile de noix, dont elle dit « La mayonnaise n'est pas une source périgourdine, mais on en fait souvent dans le pays. Elle est surtout très bonne quand elle est à base d'huile de noix. Les avis sont partagés à ce sujet. Certains en raffolent, d'autres ne peuvent pas l'admettre. Les goûts ne se discutent pas. » Bon, elle n'avait pas internet, La Mazille. Donc si vous avez, amis auditeurs, essayé la mayonnaise à l'huile de noix, envoyez-nous vos réactions. Mais moi, pour lui rendre honneur, j'ai choisi quelque chose d'encore plus traditionnel. Alors, allergique au beurre, s'abstenir. Une recette de Charlotte aux noix, très chic, nommée la Duchesse de Sarlat, qu'elle a emprunté à un certain Jacques Tournebroche de Bergerac. Je vous ai mis la recette originale sur le site, où quand même, elle précise de râper à la main 150... Elle précise
c'est un goût désuet de dessert que pratiquaient nos grands-mères. C'est un truc délicieux. Moi, ça me rappelle vraiment des desserts familiaux.
Alors, en gros, elle précise oui, j'ai quand même imbibé les biscuits dans un peu de rhum à la vanille.
Oh là là, c'est
bien
bon.
Que ce ne soit pas précisé dans la recette d'origine d'imprégner les biscuits. Donc, en gros, il faut quand même râper 150 grammes de noix à la main. Moi, j'ai utilisé un mixeur. Et puis, après, c'est une crème au beurre très, très longtemps fouettée. Officiellement, 30 minutes à la cuillère en bois. En vérité, dans ma cuisine, 5 minutes au mixeur. Ça marche très bien.
Régal.
Et une allégée d'une crème pâtissière.
Oui, c'est très allégé, mais c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est un pur régal. Merci beaucoup pour cette recette qu'on retrouve aussi en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. On arrive à la fin de cette émission. Il y avait le gâteau persan, mais dites-nous un mot. Vraiment un tout petit mot parce que il fait référence évidemment aux origines botaniques de ce gâteau.
Exactement. Donc un gâteau persan à base de noix. J'ai ajouté quelques épices. Vous trouverez de la cardamome. Et vu que j'ai du genévrier frais aussi dans ma région, j'ai rajouté en fait du genévrier et de l'épine vinette aussi, qui est un fruit emblématique sauvage de ma région.
Superbe.
Et qui aussi est le fruit emblématique de l'Iran. Donc j'ai voulu montrer le trait d'union qu'on peut avoir entre l'Iran et le Berry.
Bravo, le gâteau persan, c'est un délice. Hein.
Délicieux.
C'est délicieux. Le gâteau persan en ligne. cuisine sur franceinter.fr. Notre reporter Stéphane Cohn s'était faufilé dans les cuisines de l'auberge de l'Abbaye à Saint-Antoine-l'Abbaye, toujours en Isère. Le chef Yann Fontaine nous prépare un délicieux sorbet à la noix. C'est à retrouver de façon sonore et par écrit sur franceinter.fr à la page. On va déguster Linda Louis, les saisons du champignon chez Alternative. Bravo pour ce petit livre formidable. Guilherme de Serval, le petit livre du sommelier chez Marabout. Il va avoir du succès, je sais qu'il en a déjà.
Merci, ça donne.
Bravo Guilherme pour votre démarche. La semaine prochaine, on va déguster Sera à Blois pour les 22e rendez-vous de l'histoire. Si vous voulez assister à l'enregistrement de cette émission, eh bien c'est jeudi à 16h30 à l'auditorium de la bibliothèque de l'abbé Grégoire, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.